VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, il est 18h30, temps universel, Le Monde Aujourd'hui, édition du mardi 4 avril 2017, Morgan Gaillac en direct de Washington DC. Au sommaire ce soir, RDC, Joseph Kabila continue les consultations pour l'application de l'accord de sortie de crise, mais le rassemblement refuse de coopérer. Au Burkina Faso, l'opposition prévoit une manifestation le 29 avril. Le gouvernement nigérien se dote d'une centrale thermique de 100 mégawatts. Une nouvelle attaque chimique en Syrie provoque l'indignation de nombreuses capitales. Retrouvez Nicolas Pinault à la fin de ce journal pour les sports et Jacques Aristide pour la Minute Éco. Mais d'abord, le journal. Burkina Faso, le parquet militaire de Ouagadougou a requis des peines allant de 2 à 20 ans de prison à l'encontre d'une vingtaine de soldats burkinabés jugés depuis une semaine pour complot. C'est ce qu'indique l'AFP. Ces militaires, dont une dizaine de membres de l'ex-régiment de sécurité présidentielle RSP, l'ancienne garde prétorienne du président déchu Blaise Compaoré, sont accusés d'avoir attaqué un dépôt d'armes en janvier 2016. Estimant établi le complot militaire, le parquet militaire a demandé au tribunal de condamner les cerveaux présumés de l'attaque du dépôt d'armes, le sergent-chef Ali Sanou et le sergent Olo Stanislas Silver à une peine d'emprisonnement ferme de 20 ans. République démocratique du Congo, le président Joseph Kabila a bouclé aujourd'hui 2 jours de consultation. L'objectif étant d'obtenir l'application de l'accord politique du 31 décembre 2016 après l'échec de la mission des évêques catholiques. Il a échangé tour à tour avec le rassemblement que dirige Joseph Olenga-Koy, celui de Félix Tshisekedi ayant boycotté les travaux, le front pour le respect de la constitution mené par le MLC, la majorité présidentielle, ainsi que Valentin Moubaké, ancien conseiller politique de Tshisekedi. Joseph Kabila devrait s'exprimer mercredi devant le Parlement réuni en congrès. Les détails avec Thierry Kambundi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Au deuxième et dernier jour de ses consultations, Joseph Kabila a échangé avec l'aile du rassemblement que dirige Joseph Olenga-Koy. Son porte-parole, Bruno Tshibala, a affirmé que la délégation a déposé ses propositions pour accélérer la mise en œuvre de l'accord avant d'annoncer sa candidature au poste de Premier ministre. Ensuite, c'était au tour du Front pour le respect de la Constitution qui, en l'absence de Eve Bazaïba, était conduit par Fidel Babala. Le secrétaire général adjoint du mouvement de libération du Congo de Jean-Pierre Bemba a rappelé que le FRC ne va pas participer au prochain gouvernement et donc qu'il est le mieux placé pour prendre la présidence du Conseil national de suivi de l'accord. Le dernier groupe à être reçu fut la majorité présidentielle qui, sous la conduite de son secrétaire général Obeminaku, a signifié que Joseph Kabila va user de son pouvoir d'arbitrage et ne fera donc plus appel à la Conférence épiscopale nationale du Congo pour obtenir l'application de l'accord du 31 décembre dernier. Mais alors que l'on croyait les travaux bouclés, arriva au palais de la nation Valentin Moubaké. L'ancien conseiller politique de Étienne Tshisekedi, membre du rassemblement que dirige Félix Tshisekedi, a dit avoir rencontré le président Kabila en tant que personnalité politique et espère que ces consultations soient menées à bon terme. Le grand absent de ces consultations, c'est donc le rassemblement de Félix Tshisekedi qui, dans un communiqué, les a qualifiés d'inappropriés parce que, selon lui, en dehors de l'accord du 31 décembre 2016. Kinshasa, Thierry Kambundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
En Afrique du Sud, la pression s'accentue sur Jacob Zuma après le limogeage de son ministre des Finances la semaine dernière. La puissante centrale syndicale COSATU, alliée historique de l'ANC au pouvoir, demande la démission du président sud-africain. Abdourahmane Dia.
Pour le secrétaire général de la Confédération syndicale de la COSATU, Beki Chalin Chali, le moment est venu pour M. Zuma de démissionner à la suite de ce remaniement qui a notamment écarté du gouvernement le très respecté ministre des Finances. Cette décision de faire partir Pravin Gordhan a contribué à la dégradation hier de la note de l'Afrique du Sud par l'agence Standard & Poor's. Dès l'annonce du remaniement ministériel, plusieurs personnalités influentes de l'ANC ont dénoncé la décision du président Zuma, qui a nommé des personnes proches de lui comme membres de la nouvelle équipe gouvernementale, alors que M. Gordhan était considéré par les investisseurs comme le dernier rempart contre la corruption au sein du régime. D'ailleurs, la bourse de Johannesburg et le rand, la monnaie sud-africaine, continuent de chuter depuis le limogeage de M. Gordhan. Aujourd'hui, à la suite de la COSATU, le comité des anciens de l'ANC, forte de 150 membres, a appelé le président Zuma à prendre la décision qui l'honorerait, c'est-à-dire rendre le tablier. Mais ce dernier, pour le moment, s'est contenté de dire qu'il était fier de son nouveau gouvernement, ce qui est loin de faire taire ses critiques.
La Tunisie n'est pas opposée à une reprise des relations avec la Syrie. C'est ce qu'a annoncé le président Beji Caïp Essebsi, précisant que la situation devra d'abord s'améliorer dans ce pays frère. Des députés tunisiens se sont récemment rendus à Damas, où ils se sont notamment entretenus avec le président syrien. Les relations, souvenez-vous, ont été rompues il y a 5 ans. Tunis avait annoncé en 2012 l'expulsion de l'ambassadeur de Syrie pour protester contre la répression sanglante menée par le régime de Bachar al-Assad contre ses opposants au début de la guerre civile. Et Tunisie toujours, un DJ britannique ayant fait polémique après avoir mixé l'appel à la prière musulman dans une boîte de nuit et le gérant de cet établissement vont être jugés pour outrage aux bonnes mœurs. C'est ce qu'a annoncé une source judiciaire à l'AFP.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Dans le reste du monde, l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques, l'OIAC, se dit gravement préoccupée par l'attaque chimique qui a fait au moins 58 morts et 170 blessés dans un fief rebelle du nord-ouest de la Syrie. Les précisions de Blanche Sanou.
L'OIAC a réitéré dans ses communiqués sa condamnation de l'utilisation d'armes chimiques par quiconque, en tout lieu et dans toutes les circonstances. Elle a annoncé avoir commencé à rassembler et analyser des informations de toutes les sources disponibles et compte présenter ses conclusions par la suite. L'organisation avait indiqué début mars qu'elle enquêtait sur 8 attaques présumées aux gaz toxiques commises depuis le début de 2017 en Syrie, en plus d'une vingtaine d'accusations sur l'utilisation d'armes chimiques entre août et mi-novembre. Dans un communiqué publié ce mardi, la coalition nationale, importante composante de l'opposition syrienne, a accusé le régime syrien d'avoir mené des raids sur la ville de Khan Cheikhoun avec des obus contenant du gaz chimique, une accusation rejetée par le gouvernement syrien. Le raid aérien a frappé tôt Khan Cheikhoun dans la province d'Idleb, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme qui dénombre au moins 9 enfants parmi les victimes. La province d'Idleb est contrôlée par des rebelles qui se battent contre le régime du président Bachar al-Assad depuis 2001, une guerre qui a fait plus de 400 000 morts et des milliers de déplacés.
Les États-Unis ont aménagé une piste pour avions cargo près de Kobané, dans le nord de la Syrie, en zone kurde. La possibilité d'accueillir des avions cargo augmente considérablement la capacité des États-Unis à acheminer des armements et équipements en Syrie, alors que se prépare l'offensive contre la capitale de facto du groupe État islamique Raqqa. Conférence internationale sur l'avenir de la Syrie, la Turquie confirme son absence à Bruxelles, faute de réponse satisfaisante des organisateurs sur le format de la réunion et le niveau de participation. C'est ce qu'indiquent des sources diplomatiques citées par l'agence pro-gouvernementale Anadolu. Turquie toujours, 3 soldats sont morts dans une attaque dans le sud-est du pays. Une bombe artisanale déclenchée par des séparatistes kurdes du PKK a explosé, d'après l'agence pro-gouvernementale Anadolu. Retour sur l'attentat qui a fait 14 morts hier dans le métro de Saint-Pétersbourg en Russie. L'attaque a été attribuée à Akbarjon Djalinov, un kamikaze de 22 ans né au Kyrgyzstan. L'attentat a suscité de nombreuses réactions dans le monde. Les précisions de John Lindon.
Au moins 14 personnes ont péri dans l'explosion et 49 ont été blessées dans l'ancienne capitale impériale où un deuil de 3 jours a été décrété. Le kamikaze avait également déposé une seconde bombe désamorcée à temps dans une autre station du centre-ville. L'attentat, qui n'a pas été revendiqué, intervient alors que le groupe État islamique a appelé à frapper la Russie en réponse à son intervention en soutien aux forces de Bachar al-Assad en Syrie fin septembre 2015. Le président Vladimir Poutine a déposé dans la soirée un bouquet de fleurs rouges devant la station où s'est immobilisée la rame visée. La chancelière allemande et le président français ont souligné mardi l'importance de renforcer la coopération pour lutter contre la menace terroriste commune pour tous les États lors d'un entretien téléphonique avec Vladimir Poutine. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a fermement condamné un attentat terroriste barbare et lâche. Lors d'un entretien téléphonique avec M. Poutine, Donald Trump a lui dénoncé un attentat absolument horrible, assurant le soutien total de Washington à la réponse qu'apportera Moscou à cette attaque, selon un communiqué de la Maison-Blanche.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'actualité économique en Afrique, Jacques Aristide, La Minute Éco.
Le nouveau ministre sud-africain des Finances a déclaré aujourd'hui que le gouvernement allait déployer davantage d'efforts pour croître l'économie du pays et prendrait à bras le corps les problèmes soulevés par les agences de notation. Malusi Kigaba réagissait à la dégradation par l'agence Standard & Poor's de la note pour l'Afrique du Sud, désormais notée BB+. L'agence blâme l'incertitude politique et institutionnelle après le récent remaniement ministériel controversé décidé par le président Jacob Zuma. D'après elle, les changements font peser des risques sur les perspectives de croissance et de stabilité budgétaire. La Banque africaine de développement a approuvé un prêt de 253 millions de dollars pour la construction d'une autoroute de 118 km reliant le Kenya et l'Ouganda. Le projet vise à réduire le temps de transit sur l'axe Kapchowa-Suam côté ougandais et Suam-Kitale côté kényan, afin notamment de faciliter les échanges commerciaux entre les deux pays. Le Royaume-Uni a doublé son financement à l'export pour le Rwanda de 50 millions à 100 millions de livres sterling, annonce de l'envoyé commercial britannique au Rwanda, Lord Dollar Popat. Cela signifie que les entreprises britanniques disposeront désormais d'une avance plus conséquente pour exporter leurs produits, services et expertises vers le marché rwandais.
L'info sur les stades, les sports avec Nicolas Pinault. Bonsoir Nicolas.
Et bonsoir Morgane, bonsoir à tous.
Le Ghana a un nouveau sélectionneur.
Le technicien ghanéen James Kwesi Appiah a été nommé pour 2 ans comme sélectionneur des Black Stars, l'équipe nationale de football du Ghana. Âgé de 56 ans, Appiah, qui avait dirigé la sélection de 2012 à 2014, prendra ses fonctions à partir du 1er mai. Il avait été remplacé par l'Israélien Avram Grant après la contre-performance des Black Stars au Mondial 2014 au Brésil, où ils avaient été éliminés dès le premier tour. On se souvient que Grant était parti en février dernier après l'échec de la CAN au Gabon où les Black Stars avaient terminé 4e du tournoi.
Le Cameroun, on reparle des sanctions possibles après l'affaire du repas de Bruxelles.
L'affaire des lions indomptables du Cameroun, interdit de déjeuner dans un hôtel de Bruxelles, fait l'objet d'une réunion depuis la mi-journée au ministère des Sports du Cameroun. De nombreuses personnes sont convoquées par le gouvernement camerounais pour dégager les responsabilités de cet incident et elles doivent répondre face à des hauts gradés, un général de la gendarmerie, 2 commissaires de police mènent l'enquête. La réunion se poursuit. Hugo Brousse, le sélectionneur, est sur place. Il est entendu comme témoin. Nous signale le correspondant de VOA Afrique à Yaoundé, Emmanuel Jules Ntap.
Lourd verdict de la CAF contre le RCK au Burkina.
Ah oui, le verdict de la Confédération africaine de football sur la bagarre à la fin du match entre le Rai Club du Kadiogo et l'USM Alger est tombé. Le coach du RCK est suspendu. Amende de 30 000 dollars contre le club et 8 matchs à 8 clos, dont 4 avec sursis.
Arsenal peut encore accrocher la Ligue des Champions selon Arsène Wenger.
Actuellement 6e de la Première Ligue à 7 points de la 4e place, synonyme d'accès au barrage pour la Ligue des Champions, Arsène Wenger estime que Arsenal peut encore finir dans les 4 premiers, estime son entraîneur Arsène Wenger. Depuis qu'il a pris les rênes de l'équipe londonienne, Arsenal a toujours terminé dans les 4 premiers du championnat. Dimanche, les Gunners ont été sauvés de la défaite par Mustafi qui a égalisé devant Manchester City 2-2, offrant ainsi le premier point en 3 matchs de Première Ligue à Wenger. Arsène Wenger, 67 ans, entraîneur d'Arsenal depuis 2 décennies, au cours desquelles il a mené le club vers 3 titres de Première Ligue.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Morgane Diriec, en votre compagnie, deuxième partie d'émission, les dossiers du jour. Au Burkina Faso, l'opposition rompt le silence. Elle a prévu une manifestation le 29 avril pour dénoncer la dégradation de la situation nationale. Suite à l'appel de l'Union pour le progrès et le changement, UPC, de Zéphirin Diabré. Selon El Hadj Mamadou Kabré, président du Parti républicain pour l'indépendance totale, parti de l'opposition, le pays est dans une situation de morosité économique, de déception politique et d'attentisme électoraliste. Il est joint à Ouagadougou par Arzouma Compaoré.
Nous constatons que le défi sécuritaire peine à être relevé par le gouvernement actuel. C'est pourquoi nous trouvons qu'il y a péril en la demeure. La dette intérieure n'étant pas soldée, la question du développement économique étant posée, donc nous nous trouvions que ce sont les deux pieds de l'existence de l'homme qui fait que nous devrions attirer l'attention du gouvernement, donc tirer la sonnette d'alarme afin qu'il règle au plus vite la question sécuritaire, mais aussi la question économique pour laquelle nous trouvons qu'il y a beaucoup de choses à régler.
De l'autre côté, le pouvoir, quand même, il se défend. Hein. Ils ont réussi quand même à mobiliser plusieurs milliards pour aider l'économie. Qu'est-ce que vous dites?
Oui, les milliards qui sont mobilisés, c'est dans le cadre du PNDS, mais le premier projet, le premier financement ne pourrait être attendu qu'au plus tôt en fin 2017. En termes clairs, ce qu'ils ont comme promesse, ce sont des promesses qui tardent à se concrétiser. Mais au-delà de cela, on ne peut pas gouverner un pays avec des promesses venant de l'extérieur. Il faut arriver à mobiliser les ressources intérieures à travers justement les fiscalités de porte, à travers les recettes internes comme au niveau des domaines, comme au niveau des impôts, pour pouvoir financer l'économie et résoudre les préoccupations des femmes, des jeunes, des fonctionnaires et de beaucoup d'autres acteurs qui attendent que l'État tende la main, notamment les paysans et ceux du secteur informel.
Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire au sujet de relations entre l'opposition et le pouvoir au jour d'aujourd'hui?
Nous avons des camarades qui sont dans l'un ou l'autre camp. Nous sommes des parents dans les relations sociales. Nous sommes des collègues ou des confrères de service. Mais ce que nous nous disons et nous répétons, c'est que si le régime actuel ne se démêle pas, ne se défait pas de ses vieilles habitudes acquises dans le régime passé sous M. Compaoré, on ne pourra jamais sortir de l'ornière. Et en ce moment, on aura fait une élection pour rien. On aura donc fait des votes pour rien avec des gens qui n'ont pas été en mesure, après quelques années, de nous apporter le changement tant attendu. Et on est persuadé maintenant que le vrai changement, ce serait advenu avec le docteur Zéphirin Diabré. C'est le chef de file de l'opposition qui peut apporter une touche nouvelle donc, à la marche glorieuse des entreprises vers un avenir radieux.
Elle a du Mamadou Kabré, président du Parti républicain pour l'indépendance totale.
Salut, c'est Nathalie Barge. Juste un petit mot pour vous dire de ne pas manquer votre nouveau rendez-vous, Le Monde au féminin, diffusé en direct sur Facebook à 19h. Ce mardi, un débat sur la solidarité féminine avec Sylvie Doris Danga, présidente des femmes de l'Association des Centrafricains résidant aux États-Unis, qui nous expliquera comment les femmes s'organisent entre elles au sein de USCIWA. L'entraide entre femmes va-t-elle au-delà de la simple question pratique? Est-ce une nécessité d'ordre moral? La solidarité féminine exerce-t-elle une influence positive sur la société? Autant de questions que nous nous poserons au cours de cette discussion LMF. Le Monde au féminin, c'est tous les mardis à 19h, temps universel sur VOA Afrique. À tout à l'heure.
Et nous partons maintenant au Niger, confronté à de récurrents problèmes d'électricité. Niamey, la capitale, fait notamment face à des délestages. Alors pour faire face, le gouvernement nigérien se dote d'une centrale thermique de 100 MW. Elle a été inaugurée le week-end dernier par le président Mahamadou Issoufou. L'installation peut-elle changer la donne? Notre correspondant à Niamey a interrogé quelques citoyens. Voici son reportage.
Avec cette centrale, certains Nigériens fondent l'espoir de voir la fin du calvaire des coupures intempestives d'électricité, notamment dans la ville de Niamey.
L'inauguration de la centrale électrique de Gourbanda est arrivée assez opportunément et pour nous permettre d'espérer la résolution de ce problème d'électricité. Et vraiment, j'ai bon espoir que ce problème peut être résolu.
Vraiment, c'est un ouf de soulagement et puis Dieu merci.
Ça fait des années qu'on attend ça.
Il y a aussi à côté une grande majorité qui ne croit pas du tout à cela.
Actuellement, nous sommes dans la coupure. Donc vraiment, on ne peut pas dire qu'on a cet espoir-là. Même hier soir, il y a eu coupure ici plus de 2 heures de temps. Donc on ne peut pas dire qu'on a cet espoir-là, vraiment.
On nous a dit que ça peut couvrir l'ensemble des régions de Niamey, y compris la région de Delabé. Le jour et le lendemain de cette inauguration, on a observé des coupures d'électricité dans la capitale.
Vraiment, je n'ai pas confiance. Mais on le souhaiterait quand même. Les délestages se diminuent.
Gourbanda, c'est bien, mais on constate aussi que dès le jour même de l'inauguration, il y a eu au moins 2 coupures. Parce que c'est dans l'entendement des citoyens, c'est que après Gourbanda, plus de coupures.
Les responsables de la société nigérienne d'électricité ont pourtant beaucoup communiqué sur le fait que la centrale ne viendra que pour atténuer et non résoudre définitivement les problèmes. Mais au-delà de ces appréhensions, les autres interrogations des citoyens nigériens résident sur le choix même d'une centrale thermique alors que la tendance est au solaire et à l'hydroélectrique, avec notamment le vieux rêve des Nigériens de voir le premier barrage hydroélectrique sur le fleuve qui porte le nom du pays.
Moi, je me demande si les autorités ont fait le choix judicieux en choisissant cette centrale thermique diesel qui va consommer énormément. C'est ça que je me demande.
Et je ne sais pas si c'est bien réfléchi vraiment. Mais en tant que citoyen, j'aurais voulu qu'ils investissent vraiment tout cet argent-là dans la finalisation du barrage de Kandaji. Ça allait être une très bonne chose. On allait même pouvoir exporter l'électricité.
Abdulrazak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, à Niamey au Niger, sur le 102.5 FM, 24h sur 24.
Les bus connectés à Internet, une véritable révolution dans le domaine du transport en Côte d'Ivoire. De plus en plus de sociétés de transport fonctionnent à l'aide de moyens technologiques. Comment est-ce accueilli par les Abidjanais? Marita Namasté leur a posé la question.
Je suis en train d'essayer d'établir la connexion. Contrairement aux autres Wi-Fi, celui-là, le code se tape directement dans le navigateur. Okay. Et là, le code, c'est 5 W I E S. Okay. Et j'active.
Le transport urbain, un secteur en pleine révolution avec des taxis et des bus connectés au réseau Internet. Une révolution qui se positionne comme une réponse à un challenge social, celui d'améliorer le transport urbain et de rester toujours connecté à Internet. Noël, informaticienne, emprunte tous les jours le Webus pour le confort. Aussi, selon elle, ce système permettra de professionnaliser et sécuriser le transport en Côte d'Ivoire.
C'est sécurisant et puis les conditions sont bonnes en fait. La climatisation et tout, c'est pas trop cher. Moi je quitte Angers pour arriver à la 2, c'est 250 francs si je prends les Warren. Mais avec le Ubus c'est 350 francs de différence, donc ça va quoi.
Marcel, une fois dans le minibus, se connecte sur les réseaux sociaux et parfois consulte ses mails. Mais d'autres aspects du bus justifient sa fidélité au Ubus.
Au niveau de la navigation, les réseaux sociaux, c'est le chaque jour. Le travail, oui, je profite souvent pour balancer des mails, pour recevoir des mails. Mais plus la climatisation, quoi, parce que souvent dans les embouteillages, il fait tellement chaud que s'il y a une opportunité d'être dans le frais, c'est bon, quoi.
Contrairement à beaucoup d'autres usagers qui utilisent le Wi-Fi pour aller sur les réseaux sociaux, Myriam utilise la connexion du bus qu'à des fins professionnelles.
C'est une innovation parce que c'est quelque chose qui n'a jamais été fait dans la sous-région.
ça nous permet quand même de parer à certaines éventualités en cas d'urgence. Vous devez recevoir un mail ou vous devez envoyer un mail dans un certain délai. Vous n'avez pas pu le faire parce que la connexion au bureau déconne ou parce qu'il se fait tard au bureau que vous devez rentrer. Ou il peut toujours avoir ce genre de problème-là. Donc, dans le 8 bus, vous avez la possibilité de gérer ce problème facilement.
Marcel et Noël nous expliquent les difficultés qu'ils rencontrent souvent avec la connexion Internet de ce bus.
Sur 5 bus, il y a 3 qui sont bons et puis il y a souvent 2 qui ne sont pas connectés. Hein. Et à chaque fois, les machinistes disent qu'ils vont réparer ou bien faire savoir ça à leur service technique. C'est le constat, quoi.
Ça ne passe jamais chez moi, quand je suis dans le bus, en tout cas. J'ai même changé de téléphone, j'ai pensé que c'est par rapport à l'autre téléphone, mais les deux, c'est pareil.
D'une capacité de 27 places, ces minibus climatisés dotés de Wi-Fi et de caméras de sécurité militent pour plus de confort et de sécurité dans le déplacement des riverains de Cocody. Première commune à bénéficier du réseau de proximité. Narita Namasté, à Abidjan, VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
En Afrique du Sud, la fronde anti-Zuma se durcit. Le principal syndicat et allié historique de l'ANC au pouvoir a lancé aujourd'hui un appel à la démission du chef de l'État. Pour un éclairage, Claire Morin-Gibourg a joint la politologue spécialiste de la Nation arc-en-ciel, Marianne Séverin.
Quasiment à la même époque, l'année dernière, il s'est produit exactement la même chose, mais Jacob Zuma n'est pas parti. Déjà, il faut se rappeler qu'il y a quelques jours, au moment où il était en train de remanier son gouvernement, il a fait du chantage en disant que si on le laissait renvoyer l'ancien ministre des Finances, il partirait en janvier 2018, tout simplement parce qu'en décembre 2017, il y a le renouvellement du bureau de l'ANC et normalement un nouveau président. Et puis, il y a quelque chose de nouveau, c'est que son vice-président a dit ouvertement qu'il n'était pas heureux de ce qui se passe en Afrique du Sud et notamment du renouvellement aussi soudain du gouvernement parce que lui-même l'avait vécu à l'époque du président Thabo Mbeki, à croire que les choses recommencent encore et encore.
Pour vous, Jacob Zuma est vraiment indéboulonnable. Est-ce que ces appels à la démission et peut-être également des réactions citoyennes ne peuvent pas le pousser au départ?
S'il n'a pas envie de partir, il ne partira pas parce que finalement la Constitution ne l'oblige pas à partir. Puis il a bien le droit de renouveler son gouvernement. Simplement, c'est que renouveler un gouvernement avec des gens dits incompétents pour des raisons obscures, c'est ce qu'on appelle de la mauvaise gouvernance. Et le problème, c'est que les membres de l'ANC qui sont au Parlement ont beaucoup à perdre en le faisant renvoyer, mais surtout encore plus à perdre si on découvre qui a voté contre lui.
Vous pensez qu'ils ont peur, d'une certaine manière, qu'ils auraient peur des conséquences?
Oui, parce qu'en décembre 2017, dans quelques mois, il y a le renouvellement de l'exécutif au sein de l'ANC et tout de suite après, on commence à rentrer dans une campagne électorale puisque les prochaines élections, c'est en 2019 en fait que l'ANC se retrouve à un croisé des chemins. Soit elle se renouvelle, soit elle prend une décision sans avoir peur ou les prochaines élections de 2019 et bien on verra un peu moins de députés du Congrès national africain et peut-être qu'on verra l'opposition à la tête de l'Afrique du Sud, parce que Zuma n'a pas envie de partir. Il ne montre pas vraiment le visage de quelqu'un qui, pour le bien de son pays, va partir. Il est tout le contraire de l'ex-président Thabo Mbeki, qui lui avait pris la décision de partir.
Marianne Séverin, politologue spécialiste de l'Afrique du Sud.
Salut les amis, Roger Moumtou, la voix de l'Amérique. Restez branchés chaque mardi dans l'émission RM Show entre 20h et 21h, temps universel. Au menu, antenne libre, des sujets, débats. RM Show donne la parole aux auditeurs de la VOA. Ne ratez pas votre émission interactive. RM Show vous dit Peace Africa.
Et c'est la fin de cette édition. À la mise en onde, Joselle Morissin, Zorniak à la console, présentation Morgane Guériac. Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook et rendez-vous également sur notre site voafrique.com pour l'actualité 24 heures sur 24. Au revoir.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. N'Djamena sur 93.1 FM, Kledou FM Bamako, Raga FM Goma, 96.5 Fraternité FM, Parakou Bénin et bien d'autres encore, sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique.